Et c'est juste après le journal. Neuf heures en temps universel, 10 heures à Paris. Merci d'écouter RFI. Une nouvelle édition du journal international et c'est avec Marion Kazanov. Bonjour Marion.
Bonjour Namori, bonjour à tous. À la une, COP16, biodiversité partie 2, après l'échec des négociations en Colombie en novembre dernier. Les discussions reprennent aujourd'hui, cette fois en Italie. Au cœur des désaccords, la question des financements. L'espoir d'une trêve d'ici quelques semaines en Ukraine, c'est ce qu'a formulé le président français Emmanuel Macron à Washington hier, où il a tenté de défendre Kiev alors que Donald Trump se rapproche de la Russie. La guerre au Soudan. L'ONU s'inquiète de la signature d'une charte il y a quelques jours qui jette les bases d'un gouvernement parallèle dans le pays. Et puis les catholiques du monde entier continuent de prier pour le pape François qui reste hospitalisé à Rome pour une pneumonie. Hier, des milliers de personnes se sont rassemblées place Saint-Pierre au Vatican. Reportage en fin de journal. Dernière chance pour un accord à la COP16 biodiversité, 4 mois après les négociations de Cali en Colombie qui n'avaient pas abouti. Le bras de fer reprend donc, mais à Rome. Et comme souvent dans les COP, les pays du Sud reprochent aux pays du Nord de ne pas assez mettre la main à la poche, Lucille Gimbert.
Il reste 2 gros sujets au menu des pays à nouveau réunis pour la COP biodiversité. Le premier, c'est comment les politiques publiques mises en place par chaque pays pour freiner l'effondrement du vivant seront-elles évaluées? Les critères de cet examen mondial prévu en 2026 seront clés pour que les efforts collectifs permettent vraiment de lutter contre la disparition des espèces, comme les abeilles par exemple, ou contre la dégradation des écosystèmes naturels, comme les rivières, les prairies ou les forêts. Sur cet aspect, a priori, les choses ont bien avancé. Le second sujet, source lui de tension, ce sont les financements. Pour parvenir à l'objectif international de protéger 30% des terres et des mers du globe d'ici 2030, faut-il ou non un nouveau fonds dédié à la biodiversité? C'est une demande ancienne des pays du Sud qui trouvent les instruments existants opaques et difficiles d'accès. Mais en face, les pays du Nord font valoir leurs contraintes budgétaires et ne veulent pas que l'aide se fragmente. La présidence colombienne propose une voie médiane ici à Rome. Un processus de travail pour établir un fonds dédié, nouveau ou non, d'ici 2030. On verra lors de cette première journée de COP comment elle est reçue.
Lucille Gimbert. Les Ukrainiens réveillés en pleine nuit par les alertes antiaériennes, elles ont retenti dans tout le pays. Les autorités signalaient l'approche de missiles de croisière vers Kiev. Les habitants de la capitale et des alentours ont dû aller s'abriter. Ces alertes, ces tirs de missiles, de drones, c'est le quotidien des Ukrainiens depuis maintenant 3 ans. Hier, à l'occasion de cet anniversaire, les 3 ans de la guerre, plusieurs délégations occidentales ont fait le déplacement à Kiev pour renouveler leur soutien au pays en guerre. Un déplacement bienvenu pour ces habitants de la capitale rencontrés par Anastasia Becchio et Boris Vichitz.
Devant le mur d'enceinte du monastère de la cathédrale Saint-Michel transformé en mémorial avec ses milliers de photos de combattants tués et ses bouquets de fleurs, Natalia se recueille devant le portrait d'un jeune soldat tué l'an dernier sur le front du Donbass. En cet anniversaire de l'invasion russe, elle formule un vœu.
Que l'Europe se lève, enfin, et qu'elle aide plus l'Ukraine, parce que sinon, elle risque de connaître le même sort.
Des restrictions de circulation ont été mises en place autour du monastère. Une petite délégation étrangère vient déposer une gerbe. Devant le parvis, d'habitude plus animé, les voitures des délégations étrangères attendent leurs passagers, réunis non loin de là avec Volodymyr Zelensky. Nicolas, un retraité, se réjouit de la venue de ses nombreux dirigeants occidentaux.
C'est un très grand soutien pour nous, avant tout un soutien moral. Trump a en quelque sorte réveillé les Européens en leur disant « Arrêtez de compter sur moi, les États-Unis sont loin de vous, vous devez vous en sortir tout seul. » Et maintenant, les Européens commencent à réfléchir au sens de la paix sur le continent. L'Europe commence à se réveiller.
Nicolas, 75 ans, espère que l'Ukraine rejoindra un jour l'Union Européenne. Lui n'est pas sûr de pouvoir vivre jusqu'à cette échéance qui semble encore lointaine. Anastasia Becchio, Boris Vichit, Kiev, RFI.
La guerre en Ukraine au cœur des discussions entre les présidents français et américains. Emmanuel Macron était à Washington hier, en plein revirement américain sur le dossier ukrainien. Donald Trump n'a pris aucun engagement sur le conflit, mais a rappelé sa volonté de déboucher à terme sur une paix durable. Le président russe, Vladimir Poutine, s'est aussi dit ouvert pour des négociations de paix, ce que confirme ce matin sur RFI Vadim Sisonenko, premier conseiller et chef du service presse de l'ambassade de Russie en France.
La Russie se dit toujours prête à négocier le règlement pacifique du conflit ukrainien. Et le président russe Poutine, à maintes reprises, a dit aussi prêt à négocier, même avec Zelensky.
Donald Trump pense qu'il est possible de mettre fin à la guerre rapidement, en quelques semaines. Est-ce que vous partagez son point de vue ?
Vous savez, la volonté du président américain Trump, on ne peut que féliciter cette volonté de mettre fin à la guerre. Le contact au sommet Poutine-Trump, ça nous donne de l'optimisme. Prudent, mais quand même ça nous donne de l'optimisme. On verra les pas, les démarches concrètes et précises à ce sujet. Oui.
Entretien de Vadim Sisonenko avec Arnaud Pontus à réécouter en intégralité sur notre site et notre application Pure Radio. Autre illustration du rapprochement entre les États-Unis et la Russie, hier, au Conseil de sécurité de l'ONU, les deux pays ont voté ensemble une résolution sur le conflit et qui insiste pour une paix rapide en Ukraine. Pas un mot, toutefois, dans ce texte sur une éventuelle responsabilité russe. RFI, 11h06, à Khartoum, au Soudan, des experts s'inquiètent de la charte qui jette les bases d'un gouvernement parallèle, charte signée samedi dernier entre les FSR, les forces de soutien rapide et une vingtaine d'organisations politiques et de la société civile. Détail avec Ouda Ibrahim.
Les FSR contrôlent la quasi-totalité du Darfour. Avec les territoires dominés par Abdelaziz Lhalo au Kordofan et au Nil Bleu, cela forme un plus grand territoire qui s'étend sur plus de la moitié du Soudan. Une zone stratégique qui bénéficie d'un accès frontalier avec la Libye, le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Les experts voient déjà arriver un scénario à la libyenne, avec deux gouvernements parallèles et une division géographique qui s'ajoute à celle politique déjà opérée. L'ONU a mis en garde sur les forces formulation de la charte qui, je cite, pourrait accroître la fragmentation du pays et aggraver la crise. Quant à la Ligue arabe, elle condamne toute mesure susceptible de porter atteinte à l'unité du Soudan ou de l'exposer au risque d'une division. De son côté, dans une nouvelle réaction, le gouvernement soudanais met en cause la charte de Nairobi qui déchire le Soudan en approuvant le concept des peuples et des régions soudanaises. Il dénonce un accord qui peut accroître les ingérences étrangères et qui donne la possibilité aux FSR d'acquérir directement des armes.
Ouda Ibrahim du service Afrique de RFI. 11 ans après le crash du MH370 de la compagnie Malaysia Airlines, de nouvelles recherches débutent aujourd'hui pour retrouver les débris de l'avion. C'est ce qu'annonce à l'instant le ministre des Transports malaisien, Anthony Locke. 239 personnes étaient à bord de cet avion qui reliait Kuala Lumpur à Pékin le 8 mars 2014. Le pape François est toujours dans un état critique. Cela fait 12 jours qu'il est hospitalisé à Rome pour une pneumonie. Ce matin, le Vatican a donné de ses nouvelles et précise que le souverain pontife de 88 ans s'est bien reposé dans la nuit. Son état de santé continue d'inquiéter les catholiques du monde entier. Des milliers d'entre eux étaient rassemblés hier place Saint-Pierre au Vatican pour une prière commune. Reportage de notre correspondant Éric Sénanc.
C'est depuis cette place qui lui est d'ordinaire si familière que la prière s'est élevée pour le pape François, une veillée présidée par le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège.
Depuis 2000 ans, le peuple chrétien prie pour le pape quand il est en danger ou malade. Ces jours-ci également, depuis que le Saint-Père François a été admis à l'hôpital Gemelli, une prière intense s'élève pour lui auprès du Seigneur.
Dans la foule, une trentaine de cardinaux vivant à Rome, des membres de la curie, mais aussi de nombreux religieux ou religieuses, comme sœur Félicia, originaire de Pologne.
Il est responsable de notre église et je pense que dans cette situation, quand il est vraiment malade, c'est très bien d'être soutenu par la prière. On ne peut pas aller le visiter à l'hôpital, mais on peut venir ici pour la prière.
Des laïcs aussi avaient fait le déplacement, souvent en pèlerinage ou en vacances à Rome, comme Loïc, originaire de Bretagne.
Passer au Vatican, c'est quelque chose qui est normal quand on est catholique. Je suis avec un ami qui vit ici, donc quand il m'a dit qu'il y a une veillée pour le pape, c'est aussi le moment d'y aller. Ce qui me touche, c'est qu'il a le même âge que mon grand-père, donc ça fait quelque chose. Maintenant, il faut garder l'espérance.
Alors que l'état du pape François est en légère amélioration, a précisé le Vatican, la prière des fidèles continuera, elle, tous les soirs, place Saint-Pierre, jusqu'au rétablissement du souverain pontife. Éric Sénanc, Rome, RFI.
RFI, 10h10 à Paris, 9h10 en temps universel. Vous retrouvez Caroline Paré pour Priorité Santé.
Un grand merci à vous, Marion Cazanove.